Cette année-là, donc, je n'avais pas pu être à Paris Web. Cette année, je n'y suis pas, à nouveau. Mais heureusement, donc, en face de moi, eh ben, il y a Nathalie Rosenberg, que l'on a déjà reçue d'ailleurs dans les chroniques de l'année dernière, justement, pour parler de Sudweb, avec Franck Taillandier, qui est derrière, et qui est vraiment un bras cassé, pour le coup. Il n'y a pas que moi dans le lot. Il y a aussi Simon Prévidente, qui est un petit jeune écolier qui... T'as fait quoi? T'as fait 2 Sudweb, 1 Paris Web? Tu te sens pas un peu élite, là?
Surtout, surtout qu'il a pris le vendredi soir, il a pris l'apéro avec Tristan Itô quand même. Attention. Pour un premier Paris Web, c'est beau.
C'est pas mal. Donc Tristan Itô, on le dit rapidement, donc c'est le fondateur en fait de la branche européenne de la société Mozilla, puis de Mozilla Foundation. Et donc c'est grâce à lui si Firefox est devenu très utilisé en Europe, que Thunderbird est aussi eu son petit succès à une époque et actuellement donc il est dans une boîte qui s'appelle
My Cozy Cloud
qui fait de l'auto-hébergement. Tout ça sont des sujets dont on va parler. On va essayer d'avoir une belle interview avec lui puisqu'il vient pour le Capitole du Libre dans le cadre du track Crypto Party. Et je crois que c'est pas moi qui vais faire les interviews parce que je serai chargé d'animer justement pour le coup cette partie-là. Nathalie, ça fait combien de Paris Web que tu fais?
7.
Donc, parce que là, c'était la 10e édition.
Oui.
Quelle a été la différence de thématique par rapport au précédent? Vraiment, quelle a été la thématique cette année?
Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un Paris Web qui m'avait autant intéressé. Les autres années, enfin les 3 dernières éditions, c'était un peu plus flottant. J'en revenais, j'avais pas retenu grand-chose, par voir les copains, peut-être une conf. Là, il y avait pas mal de trucs sur, effectivement, autour de la vie privée. Il y a eu pas mal de retours d'expérience.
C'est vrai que sur la vie privée, il y avait une ouverture par Adrien Alix.
C'est ça, et qui a vraiment réveillé les consciences. Il y a beaucoup de gens qui ont été, qui ont pris conscience de tout ça, qui n'étaient pas très au fait
c'est
de tout ça.
C'est pas faute de les avoir secoués, personnellement, par une conf là-dessus, avec Amaël Guinon de Libération, et là, donc, la porte-parole de la Quadrature du Net, qui était là pour dire, mais c'est justement parce que vous y connaissez que vous devez vous bouger.
C'est ça, et effectivement, elle a, donc, d'entrée de jeu, effectivement, première conférence. Elle a vraiment réveillé l'audience. Elle a fait une conférence en plus sans slide. Alors ça, c'est impressionnant pour tout le monde.
Ouais, il y en avait pas mal dans le flux Twitter qui s'en plaignaient.
Parce qu'il leur fallait pour retenir tout. Et puis c'est vrai que c'est vraiment une superbe oratrice. Et moi, j'ai vu effectivement tous les billets de blog là, qui sont déjà sortis depuis que l'édition s'est terminée. Il n'y en a pas un qui n'en parle pas de cette conférence.
Elle a vraiment marqué. C'était la preuve. Non, il y avait déjà eu des plénières. Je m'excuse. Il y avait l'histoire d'un cigare par 3 stagiaires qui était
Clinton
assez...
2000.
Ah oui, celui-là était énorme. Vous le verrez. On vous donnera les liens justement. Enfin, si on arrive à tout noter, hein, on n'a pas de la vélotypie, contrairement à Paris Web. C'est vrai que on en a parlé justement quand on a parlé de Sudweb. Paris Web, normalement, c'est surtout sur l'accessibilité. En soit, Sudweb, c'est sur le retour d'expérience. Donc là, cette année, Paris Web s'oriente un peu plus, je vais dire, aussi sur la prise de conscience des professionnels sur le plan politique. C'est amusant parce que c'est en écho avec l'émission qu'on a fait la semaine dernière avec Eric Walter, ex-secrétaire général de la Hadopi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir aussi?
Effectivement, il y a eu pas mal de conférences sur le sujet de la vie privée parce que le dernier jour, je crois, les 2 derniers jours d'appel à conférence, c'était au moment où la loi renseignement est passée à l'Assemblée nationale. Donc justement, Paris Web a beaucoup insisté là-dessus, avait fait des appels en disant maintenant que c'est passé, on aimerait bien avoir des tracks sur le sujet. Donc je ne sais pas si Adrien l'avait vu ou si lui ont demandé de venir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Il y a eu une conférence très rigolote de Thibaut Joannick sur les vieilles technos pour les vieux croutons.
C'est dans les bonnes vieilles soupes qu'on fait les
meilleurs plats.
C'est
dans les bonnes vieilles soupes. Voilà, il y a eu une conférence où j'étais allée parce que je ne savais pas trop où aller, qui était très intéressante. C'était effectivement sur la crypto pour les devs de Mathias Duguay, qui est aussi un très bon orateur, qui vraiment fait une conférence très très dynamique.
Ça avait bougé pas mal de gens, il y a des gens qui disaient « Ah ouais, mais ça ne s'implémente pas comme ça ouais. ».
Oui, effectivement. Il y a eu retour d'expérience aussi, les gens de BlaBlaCar qui expliquaient comment on transforme une application monolithique en microservice, Voilà.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un truc pour tout faire. Donc on passe d'un couteau suisse à un tournevis, une clé à molette.
On fait la boîte à outils. Il y a eu un retour d'expérience qui, moi, m'intéresse particulièrement parce qu'au niveau de mon boulot, ça va être mis en place. C'est France Connect. Donc effectivement, un truc sur OpenID Connect qui va permettre effectivement de faire la liaison entre tous les services publics.
OpenID, il faut expliquer, c'est une manière...
OpenID Connect parce que OpenID n'existe plus en tant que tel.
Directement, oui. Mais OpenID, l'idée derrière, c'est qu'il y ait pour les personnes une manière simple de se connecter à un service en ayant un mot de passe que les services où on veut aller n'auront jamais. Et en fait, d'unifier, d'avoir en fait...
De pouvoir effectivement échanger les données. Alors après, c'est vrai que la façon dont il l'a présenté, et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui après, c'est que ça peut poser question parce qu'il y a pas mal d'échanges de données. Alors a priori, c'est quand même toi qui, effectivement, accepte qu'il y ait un échange qui se fasse entre les impôts, la CAF, l'assurance maladie, etc. Mais... on s'est posé des petites questions comme ça parce qu'il avait l'air de dire que parfois les mises à jour pouvaient se faire de manière directe sans que t'en sois conscient. Alors ça peut être pratique et d'un côté finalement contrôle des données, on sait pas trop.
Alors deux jours de conférence où je crois qu'il y a trois salles si je me souviens bien.
Alors en fait il y a deux salles plus une salle informelle.
Informel, ça veut dire
on organise un truc. Et moi, je voulais juste parler. Moi, la conférence qui m'a surtout marqué quand j'avais vu le programme, je m'étais dit c'est celle-là vraiment que je vais aller voir parce que ça m'intéresse vraiment. C'est sur le testament numérique. C'est une oratrice allemande.
Ça vaudrait une émission en soi.
C'est une oratrice allemande, donc qui effectivement a mené une enquête, nous expliquant que tous les jours il y avait 10 000 personnes sur Facebook qui mouraient. Donc il y a a priori un utilisateur sur 30. Aujourd'hui, il y a un compte Facebook qui est décédé et en fait, c'est qu'on n'est pas forcément au courant. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, on n'est pas forcément au courant. Alors ça touche pas que Facebook, hein, ça touche tout. C'est effectivement ton compte Twitter, ton compte Flickr, ton compte Gmail, ton blog, tes noms de domaine, tout ça. Et d'ailleurs, le samedi, Stéphane Deschamps a organisé de manière impromptue un atelier sur le sujet où on a réfléchi sur tout ce que ça touchait, effectivement. Il nous a parlé notamment de l'exemple de deux personnes qu'on connaît qui se sont effectivement passées les. Se sont donné chacun effectivement les droits d'accès sur si je meurs, toi tu feras ça, et si moi je meurs, je ferai ça. Enfin, voilà. Et Stéphane lui-même a vu avec Mathias Duguay sur le testament numérique, donc. Si Stéphane meurt, c'est Mathias qui s'en chargera. Si Mathias meurt, c'est Stéphane qui s'en chargera. Mais ça pose question pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'on va laisser énormément de traces. Et Stéphane nous donnait par exemple un exemple en disant un jour, on avait une amie qui était censée venir à Paris Web, je crois, qui n'est pas venue. Et puis, un petit peu après, on l'a chambrée sur son blog. Non, bah t'es pas venue. Tout ça pour apprendre qu'en fait, malheureusement, elle s'était tuée en voiture un petit peu avant et il n'était pas du tout au courant. Mmh. Et après, il y a des choses qu'on veut peut-être laisser, finalement... si on est vraiment la personne référente sur un truc, on a peut-être envie que son blog continue de vivre après son décès, voilà.
Donc voilà, c'est CPU donc oui. Enregistré en direct depuis le Grand Builder dans les conditions du direct. Et pendant que Solarus est en train de regarder les cartes NFC à la lampe et au lecteur de téléphone portable, ça vaudrait un beau sujet bien sûr. On va continuer à parler justement donc de la dernière édition de Paris Web.
On a quand même des gens un petit peu douteux avec nous parce que c'est des gens qui, entre le fait de passer un week-end bricole paraciste avec Nadine Morano et aller à Paris Web, ils ont fait leur choix. Ils vont à Paris Web.
Ouais, mais je vais dire.
Toi, t'aurais choisi quoi, toi ?
Écoute, honnêtement, j'aurais aimé disséquer le cerveau de Nadine Morano, mais j'ai tellement peur de me salir que j'aurais préféré Paris Web.
C'est vrai.
Et
puis, il y avait quand même des conférences.
Non, mais à chaque fois, j'essaie de suivre par stream et j'y arrive pas et c'est pas possible et tout ça. On est toujours en compagnie de Nathalie Rosenberg. Donc, il y a Simon Prévidente qui nous a rejoint, donc qui est étudiant à l'IUT de Blagnac, qu'on avait déjà reçu, non pas dans une des chroniques, mais dans l'émission qu'on avait fait en direct du THSF pour une crypto-partie radiophonique qu'on avait fait. Simon, donc, toi, tu vas entrer dans la vie active. Tu te retrouves dans au milieu de gens qui sont principalement des gens qui sont établis. C'était une thématique qui revient régulièrement dans ce genre de réunion. C'est est-ce que finalement les jeunes ils veulent apprendre des technologies et les vieux ils veulent apprendre de parler de sens et de retour d'expérience. Est-ce que toi, tu t'es senti finalement entre les deux?
Moi, je pense que c'est bien de voir les deux, en fait. Je pense que Paris Web, c'est du technique, ouais, mais c'est aussi de l'humain, c'est aussi ce qui se passe entre des conférences. Et du coup, voilà, j'apprécie de venir à la rencontre de personnes qui justement ont de l'expérience à livrer, qui ont pas uniquement du technique. Le technique, je peux le trouver un peu n'importe quand, un peu n'importe où sur internet.
T'aurais là, pu le suivre en stream.
Voilà,
ça coûtait moins cher.
Ça aurait coûté nettement moins cher, mais voilà, je voulais.
Et puis il fallait trouver la ligne numéro 7 qui allait jusqu'à Mairie de Montrouge et tout ça.
C'est ça.
Voilà. Ouais. C'est la 4. Oui, non, je confonds avec la 13, mais là, dans ce cas-là, tu te retrouves à 2 km et tout ça. Enfin bon. On est à Toulouse. Est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à ça, ou est-ce que tu as eu de sacrées surprises et vraiment des grands coups?
Alors, j'ai eu de sacrées surprises. J'ai eu le fait de parler avec des gens qu'on suit habituellement sur Twitter, tout ça, c'est assez intimidant, je dirais. C'est bluffant. Le fait de rencontrer même des personnes qu'on ne s'attendrait pas du tout à voir, qu'on ne s'attendrait pas du tout, qu'on ignore carrément le... Parfois jusqu'à leur existence, en fait, on les rencontre, on parle avec eux, c'est de super rencontres et après ça fait de nouvelles personnes à suivre, c'est des personnes vraiment qui ont énormément de choses à partager, c'est vraiment enrichissant.
Est-ce que le fait que tu avais des espèces de vicieux qui débarquaient derrière les gens qui se prenaient en selfie déguisant en licorne, ça t'inquiétait?
Alors pas du tout, parce que
Laurent, si tu nous écoutes,
et Corinne, parce qu'il y avait deux costumes effectivement.
Non, mais pas du tout, ouais. Au contraire, on s'y attendait et c'était très sympathique.
Est-ce que justement le problème, c'est que le web est un peu dans une adolescence, Nathalie? Est-ce que justement le problème de la prise de conscience qui a eu lieu trop tard, peut-être, à Paris Web, c'est pas parce que justement on a passé trop de temps à bricoler avec nos technologies sans chercher ailleurs?
Ouais, mais enfin, toutes les attaques, elles sont quand même récentes par rapport, effectivement, à la prise de conscience sur tout ce qui concerne la vie privée et tout. Hein. C'est pas un truc qui a commencé il y a 10 ans, c'est quand même assez récent, donc on va pas non plus jeter la pierre à tout le monde parce qu'ils en prennent seulement conscience. C'est déjà bien qu'ils en prennent conscience. Et tu parlais effectivement des jeunes, des plus anciens. Moi, le samedi... J'ai aussi improvisé un atelier. J'avais déjà fait à Sudweb, qui était dans 20 ans, je fais quoi ? Je l'ai refait, là, à Paris Web. La salle était pleine, et il y avait de tout. C'est-à-dire qu'il y avait des vieux cotons, et il y avait des étudiants. Parce qu'en plus, comme le samedi, c'est dans une école, donc il y avait quelques étudiants qui étaient là. Et moi, je m'attendais à avoir peut-être 15 personnes, et en fait, non, c'était complet. Le staff m'a dit à un moment donné, non, mais c'est fini, on n'en prend plus personne. Question de sécurité, plus personne ne rentre. Et donc, il y a eu effectivement des échanges très très intéressants sur la façon dont les gens sont formés aujourd'hui et comment ils peuvent appréhender l'avenir. Et je reprendrai cette réflexion d'Éric Daspé qui était de dire il ne faut pas s'arrêter aux outils, ce qu'il faut se dire c'est qu'on a un problème à résoudre et c'est comment on va le résoudre. Voilà. Et ne pas non plus, comme l'avait dit effectivement Thibaut Joannick dans sa conférence et l'a redit des gens comme Gulven Champenois ou Nick Hoffman lors de mon atelier, c'était pas non plus se jeter à chaque fois sur le nouveau framework JS à la mode qui vient de sortir. On va attendre qu'il y ait quelques rockstars qui ont que ça à foutre, qui vont les tester pendant 6 mois et qui vont effectivement faire le tour et nous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, je pense qu'il y a assez de gens qui ont du temps et qui adorent effectivement tester tout ce qui sort et attendre leur retour avant de se dire « Oh là là, mon Dieu, il faut que je teste ça, et je m'en sors plus, et au secours. »
Ouais, j'avais une question pour Simon, justement. Comme tu es en formation, je voulais savoir, est-ce que ce serait pas intéressant qu'une formation telle que tu la suis, ce soit Paris Web de septembre à juin?
Comment ça?
Est-ce que finalement, t'apprendrais plus, ce serait mieux pour toi d'avoir une formation qui ressemble toute l'année à ce que tu vois à Paris Web ou pas?
Alors, ça serait mieux dans l'idéal. Après, je pense que ce serait difficilement envisageable. Paris Web, c'est 3 jours et c'est ce genre de conférence. Ce que je répète souvent, c'est que j'ai l'impression de voir un semestre en 2-3 jours. C'est assez énorme et je pense que ce qui fait vraiment la particularité, c'est qu'on a vraiment des humains qui ont vraiment de l'expérience. On n'a pas des profs qui... je crache pas sur les profs, hein, mais on n'a pas des profs qui restent à l'université, on n'a pas, on a parlé des profs chercheurs qui ont peut-être jamais travaillé. Là, on a vraiment des gens qui font ça toute la journée, qui font ça toute l'année, et c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante.
C'est aussi parce que le programme qu'on t'impose en ce moment, c'est quoi déjà le langage qu'on te fait apprendre?
On est en 2015. Ouais, en ce moment on est en 2015 et on voit du COBOL en cours.
Ceci dit, on en a parlé. On en a parlé, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des trucs en COBOL. Et à mon atelier, il y a quelqu'un qui en a parlé et qui a dit, il faut pas oublier qu'il y a des vieilles technos qui sont toujours utiles, notamment le COBOL, on en a parlé. Moi, j'ai dit, les développeurs COBOL sont très très bien payés.
Ils font des trucs bancaires avec, non?
Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est que ça. C'est que les banques ne veulent pas payer pour refaire le truc, donc elles maintiennent ce qui coûte plus cher. Voilà.
Il y a quelqu'un qui a dit, du coup, moi, à votre place, je m'intéresserai, je continuerai à m'intéresser à IE6, mais...
Allez, c'est parti dans les blagues. Internet Explorer, c'est vrai que ça a été la grande surprise ces dernières années, c'est la vitesse à laquelle ils ont évolué vers les standards. Mais vraiment, sans déconner, c'est pas Extend and Unbrand, c'est-à-dire on refait les standards et tout le reste. Non, ils ont vraiment fait quelque chose d'intéressant. Et David Rousset qui est l'un des évangélistes de Microsoft Europe, évangéliste dans le respect des standards. On se dit c'est incongru. Quand on connaît Microsoft il n'y a ne serait-ce que 5 ans, c'est complètement incongru. Et là, il est parti dans un truc. Oui. Il est parti dans l'accessibilité et le jeu.
C'est ça. Et moi, je trouve qu'il a vraiment eu du courage de venir une première fois à Paris Web, c'était il y a quelques années.
Je crois que je m'en souviens
qu'il s'en était vraiment pris plein la tronche, mais il a continué à venir. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect pour lui. Alors après, s'il y en a d'autres qui viennent, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que du coup, lui en tant que personne... Et David Catu, c'est vrai, maintenant, cette espèce d'aura auprès du public de Paris Web. Je ne suis pas sûre que Microsoft ait encore cette aura, mais ça ne les empêche pas d'être sponsor, d'être quand même sponsor premium, d'être présent, effectivement, d'avoir fait ce casse-brique accessible aux aveugles. Et donc, il y a des gens qui l'ont testé.
Breakout for All, donc on va le faire jouer à Eugène, donc ce qu'on vous explique...
Il faut que je ferme les yeux.
Non, tu peux jouer donc avec ces deux flèches, mais ceux qui écoutent la radio peuvent théoriquement suivre la partie.
Attends, je vais fermer les yeux, on va vraiment le faire comme si je ne voyais pas.
Là, tu as intérêt à bouger.
Game over. Mais il dit rien en fait.
Si, il a dit game over là.
Il a dit game over, il a dit le nombre de briques qui est resté et la musique t'indique vers où la balle part. Je me suis trompé de touche, voilà.
Starting game. Ah, elle va vers là, la musique, normalement. 23 remaining. Non, c'est bon. J'ai gagné ou pas?
Game over.
Rien.
Tu l'as game
loupé. Non, je suis nul. En fait, je pense que à cause de la radio, je suis un peu sourd et je veux pas avoir les oreilles très développées.
En fait, c'est vraiment dans la stéréo que ça se joue. C'est-à-dire là où tu as du silence, c'est par là où est la balle.
Ah, moi, je vais là où il y a la musique, c'est pour ça que je perds.
Et voilà. Non, c'est de l'autre côté, c'est là où il y a le silence. Mais t'as mis ton casque à l'envers.
Ah, mais c'est pour ça, en même temps, je confonds ma droite et ma gauche, ça m'arrête pas forcément. J'ai même ce problème avec les oreilles, vous voyez.
Donc c'est une expérience assez amusante. David Rousset, c'est vraiment une rockstar, c'est-à-dire on voit vraiment des gens qui sont... Vous imaginez le battleur de foire, celui qui fait la démo, vous voyez, dans les marchés. Sauf que là, ce sont des mecs, ils vont vous démontrer la technologie dans une conférence en 4 minutes 30, ils vont coder... Ils vont vous faire rire, ils vont vous apprendre des trucs. Il avait montré qu'on pouvait faire un Tetris avec les dernières règles CSS. Et tout le monde était mort de rire. Et en même temps, c'était une performance hallucinante de code.
Ils avaient gagné le
contest. À l'applaudimètre, c'était fabuleux. Pourtant, il y a en général du monde de ce côté-là. Est-ce que finalement, on en met plein la vue et tout ça. Est-ce que ça... Mais le niveau, il est tellement haut. Est-ce que ça peut vraiment donner envie à des gens d'y mettre les doigts ou ça les assomme? Tu peux peut-être répondre, puisque tu as des camarades sûrement qui disent « Oh non, moi je veux faire du COBOL ».
Non, alors j'ai pas de camarades qui veulent faire du COBOL, mais effectivement, personnellement, moi je trouve ça attirant. Après, c'est vrai que j'ai des camarades qui aujourd'hui sont pas attirés par ces conférences techniques, ils préfèrent passer leur temps à d'autres types de loisirs comme le sport c'est une culture geek qu'il faut avoir, mais je pense que pour le reste des geeks en fait c'est quand même super attirant et c'est pas du tout repoussant, c'est bluffant, mais on se dit que peut-être dans quelques années, bah, faudra des, enfin, je vais pas être méchant envers eux, mais faudra peut-être des gens pour venir faire ces démonstrations là et que ces gens là ils sont pas éternellement ici. Il faudra peut-être à un moment donné des gens pour les remplacer, des gens suffisamment bons pour les remplacer. Et du coup, non, c'est bluffant et c'est inspirant aussi.
Mmh. Il y avait pas mal de nouveaux orateurs encore cette année. Déjà l'année dernière, moi j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de renouvellement par rapport aux deux années d'avant. C'était quand même un peu les mêmes. Là, il y a eu effectivement pas mal de nouveaux, de primo.
De primo accident. Ouais.
De primo accident. voilà, après, c'est pour tes copains, je veux dire, faut pas oublier de leur dire que bah, les conférences, c'est pas non plus tous les week-ends, donc c'est une fois par an. Après, c'est toujours le problème, effectivement, du prix. Parce que
c'est vrai que c'est 100€ la journée en moyenne, ce genre de conf.
C'est 350 ou 380, je ne sais plus exactement. Donc il n'y a pas de tarif étudiant.
Plus l'hébergement sur place en général.
Sur place.
C'est plus cher qu'un concert de Björk en fait.
Ouais.
Sauf si tu l'achètes au Black, peut-être.
Et puis c'était sur loge présidentielle.
Nathalie Rosenberg, merci beaucoup. Simon Prévidente, merci beaucoup.
Je voulais juste ils ont fait un truc génial cette année.
C'est un photomaton,
c'était
voilà.
C'était un vrai photomaton. Donc, il prend des photos avec des décors de licorne derrière. Et donc, ça, en plus, ça te tire ça en 30 secondes, le temps que tu rentres ton mail pour recevoir le gif animé du photomaton, parce que tu le reçois aussi en gif animé. Et c'était vraiment très, très drôle. Et il y a les gens d'OpenWeb, créateurs du site Open Web, qui ont fait une photo. Ils sont rentrés à 5 dedans. Ça a été très difficile, mais ils sont rentrés.
Comment ça s'appelle déjà, ces capoechon, là, les trucs, les photomatons là, qu'on trouve au Japon pour le faire entre copains et
Je
tout
sais
ça,
pas du tout. C'est toi le spécialiste du Japon. Non, mais, voilà.
Non, c'est Solarus, mais il dort là. Pulikula, on me dit derrière. Merci.